Mesdames et messieurs, amis auditeurs et auditrices, bienvenue dans votre émission quotidienne, le forum du studio Kalangou. L'émission qui vous permet de trouver des réponses aux questions que vous vous posez au quotidien. Le charbon de bois est une ressource énergétique qui est fréquemment utilisée dans nos communautés, surtout pour la cuisson, la grillade et le chauffage domestique. Le charbon de bois est également utilisé à grande échelle par des restaurateurs, qu'ils soient en ville ou en campagne. Et pourtant, pour s'offrir du charbon de bois, il faut couper des arbres, ce qui représente une pression sur le couvert végétal. Environ plus de 315 000 hectares de forêts naturelles sont perdus chaque année selon le plan forestier national établi de 1985 en 2009. Forcément, ces chiffres ont évolué avec le temps. Pour le charbon de bois fabriqué au Niger, la vente est illégale, car la production est interdite sur l'ensemble du territoire national conformément à l'article 118 du décret d'application de la loi 2004-040 du 8 juin 2004 portant régime forestier au Niger. Le thème du forum de ce soir porte sur l'utilisation du charbon de bois, quel impact sur l'environnement. Et pour en parler, quoi de plus légitime d'avoir comme invité le lieutenant-colonel Issoufou Labo. Il est directeur national de la protection de l'environnement et de l'équipement militaire au niveau du ministère de l'Environnement. Nous avons également comme invité Mahamadou Siraji, jeune volontaire engagé à 100% pour la cause environnementale. Et pour la présentation, je suis Olivier Assobavi. Cher invité, bonsoir. Comme annoncé en introduction, le charbon de bois peut être une ressource énergétique incroyable. Cela pourrait également conduire à la destruction éventuelle du couvert végétal. C'est de cela que nous allons parler dans le forum de ce soir. Mais pour planter le décor, on commence par la question légitime. Où est-ce que l'exploitation du charbon de bois se fait chez nous, ici, au Niger? Là, la question est adressée à vous, M. Issoufou Labo.
Merci. Nous devons de prime abord remercier le studio Kalangou pour avoir organisé cette émission et qui a permis d'inviter notre ministère à travers nos personnes, notre personne, afin de parler de la thématique de l'utilisation du charbon de bois. Alors, il faut dire que le charbon de bois se confectionne sur la base de nos ressources ligneuses, notamment pour la plupart du bois vert que les gens coupent pour pouvoir le carboniser en partie afin de le transformer en charbon. Et c'est une en tout cas activité qui se fait dans nos réserves forestières, dans nos domaines protégés, dans nos forêts classées et même au niveau des périmètres de restauration. Il faudrait dire aussi que cette activité se fait au niveau des périmètres où les gens ont fait la régénération naturelle, donc qui a permis de faire régénérer un certain nombre d'arbres, que d'autres viennent couper en vue de confectionner ce bois-là. Donc, il faut dire que la confection de bois se fait dans le potentiel forestier dont dispose notre pays.
Et un potentiel forestier qui n'est pas justement là pour ça.
Absolument. Quand on voit nos ressources forestières, elles sont assez maigres. Elles sont soumises à des aléas climatiques et auxquels viennent s'ajouter, en tout cas, la pression de l'homme, n'est-ce pas, qui coupe pour pouvoir confectionner ce charbon-là.
Alors, Mahamadou Siraji, c'est vrai que quand on est Nigérien, c'est difficile de ne pas voir un foyer dans lequel il y a l'utilisation du charbon de bois. Est-ce que vous, aujourd'hui, c'est quelque chose que vous remarquez autour de vous, l'utilisation du charbon de bois?
Merci à Studio Kalangou de d'avoir invité jeunes volontaires pour l'environnement dont je représente ici. Le constat de nos jours, on constate de plus en plus l'utilisation des ménages nigériens vers l'utilisation du charbon de bois, qui n'est pas sans conséquence sur l'environnement. Comme vous le savez, aujourd'hui, cette utilisation du bois est ancrée dans la pratique, si je peux le dire, dans le conscience des Nigériens. D'autres disent que l'utilisation est facile, mais les effets néfastes sur notre environnement à travers son utilisation est polluante et aussi présente des risques. Quand je dis, par exemple, utilisation polluante, je parle de tout le processus de la production. Donc, lieutenant-colonel...
Tu sais, l'armée, c'est trop carré, c'est trop la discipline.
je m'excuse. Il y a aussi, cette utilisation aussi accélère le déboisement. Ça réduit aussi la fertilité des sols. Ça affaiblit aussi la production de notre terre, surtout la terre agricole. Vous savez, nous produisons l'agriculture en fait plus de 80% des ménages, des ménages nigériens. Donc, cette utilisation aussi accélère l'érosion des sols.
Alors, vous m'avez un peu devancé sur l'impact de l'utilisation du charbon de bois dans nos communautés. Alors, je me retourne vers vous, lieutenant-colonel Issoufou Labo, aujourd'hui. Quand vous êtes désigné à protéger l'environnement, quel est pour vous aujourd'hui l'impact de cette pratique, l'utilisation du charbon de bois qui se fait au préalable par la destruction du couvert végétal?
Oui, en fait, il faut d'abord dire, il faut un peu situer comment est-ce que cette transformation se fait, cette confection de charbon de bois se fait, pour voir ce qu'elle implique comme conséquence.
D'accord.
Alors, j'ai dit tout à l'heure que le charbon est obtenu à partir d'un degré de combustion, du bois vert qui, pour la plupart, est utilisé. Alors, qu'est-ce qui se réalise en pratique? Les gens, ils coupent du bois vert de diamètres différents dans nos peuplements, dans nos ressources forestières. Ils viennent faire des fouilles pour pouvoir le carboniser. Et le carboniser, c'est le chauffer à une température de 300 à 700 degrés. 300 à 700 degrés pour avoir, à mi-combustion, pour avoir le charbon. Donc, parce que le bois, s'il se consume complètement, il devient de la cendre. Mm-hmm. Alors maintenant, il faudrait le consommer à moitié pour pouvoir, en partie, pour avoir du charbon. Et ce charbon-là, il faut dire que il faut à peu près 7 kg de bois vert, n'est-ce pas, pour confectionner 1 kg de charbon. Si je raisonne en termes de tonnes, il faut 7 tonnes de bois pour avoir une tonne de charbon. Ce qui, du coup, donne un caractère dévastateur de nos ressources forestières. En tout cas, pour concevoir le charbon du bois, on perd beaucoup de bois vert. Et pour couper ce bois-là, c'est des grandes superficies qui sont dévastées. Alors, c'est comme ça que ce processus-là se fait. Donc, vraiment, comme l'a dit mon collègue, ça a des conséquences très, très, très importante sur nos ressources forestières parce que nous avions en tout cas la dégradation des ressources de manière des ressources forestières. Nous avions le déséquilibre écologique que cela crée au niveau d'un peuplement ou d'un écosystème. Nous avions l'exposition des champs de culture. Les champs de culture, en tout cas, vraiment, ils sont exposés aux différentes formes d'érosion hydrique et éolienne. Nous avions la destruction de l'habitat de la faune. La faune, parce que quand on coupe, vraiment, la faune se trouve être sans habitat et elle migre vers d'autres sphères. De même, en faisant les fouilles, on tue la microfaune. Vraiment, le développement microbien est vraiment anéanti avec la chaleur qui se répand dans le sous-sol. Et ça a des conséquences vraiment dans la vie de la microfaune et de micro-organismes. Nous avions aussi la baisse de la production agro-silvopastorale qui est engendrée. Et s'il y a baisse de la production agro-silvopastorale, du coup, ça nous amène vers vraiment... le manque de production, ça nous amène vers...
ça nous poursuit le chemin de l'insécurité alimentaire.
Voilà, ça nous amène à l'insécurité alimentaire. Nous avions, en fait, la pollution. Là où on fait les fouilles, la fumée se dégage. S'il y a des vies à côté, des vies humaines, en tout cas, il y a des risques de maladies respiratoires. En gros, cette activité a des conséquences sur l'environnement tout autour. Et ça c'est une activité franchement qui a été, en tout cas à partir des dispositions, et donc puisque en termes de dispositions prises par le ministère, par l'État nigérien, nous avions en tout cas la loi 2004.
Justement, on va revenir sur l'encadrement juridique qui est fait. Voilà. Ne vous en faites pas pour ça. Alors, je me retourne vers vous, M. Mahamadou Siraji. Comment est-ce qu'on comprend du fait que la lutte contre l'utilisation du charbon de bois n'a pas commencé hier? Ça a toujours été une lutte du gouvernement nigérien, même avant la législation. Et pourtant, nos communautés continuent par l'utiliser. Comment est-ce que vous arrivez à justifier cela, vous qui êtes aux côtés des populations à chaque fois? Quand vous les écoutez, quand vous les sensibilisez, ben, qu'est-ce qu'ils vous disent en retour? C'est quoi leur raison de leur résistance, si je peux le dire?
Et merci bien. Et vous savez, la biomasse, comme on le dit, c'est un droit fondamental. L'énergie, c'est un droit fondamental. Les gens ne peuvent pas s'en passer sans l'utilisation de l'énergie. Mais qu'est-ce que nous prévoyons? C'est l'utilisation rationnelle. Aujourd'hui, si les ménages tendent vers le charbon de bois...
Ça n'a pas commencé aujourd'hui.
Mm-hmm. C'est une pratique... Ça ne finira pas aujourd'hui.
C'est une pratique
de longue date. Mm-hmm. Ce qu'on constate au niveau de la prise des décisions, ce que nous proposons, c'est la concertation à la base. L'État prend des décisions, des fois, sans consulter la base. D'un côté, la population, si on dit les ménages, ont besoin de ces bois pour leurs besoins quotidiens, Mais aussi, l'État doit protéger ces mêmes populations. C'est au profit de ces populations que l'État prend les décisions. Si, peut-être à la longue ou dans l'avenir, en prenant ces décisions, l'État aurait peut-être dû revenir à ces parties prenantes. Nous voulons prendre telle décision en votre faveur, d'ailleurs, à la faveur de la population. Qu'est-ce que vous allez nous proposer en premier? Si eux, ils peuvent proposer, parce que les conséquences, c'est en eux. J'allais dire les ménages. Mm-hmm. Ils peuvent en proposer, l'État dit. Ils vont s'asseoir, les deux parties, bon, ok. Ils allègent et l'État prend les décisions. Là, on va dire que l'ensemble des parties prenantes se sont engagées. Donc, l'exécution devient automatique.
Donc aujourd'hui, pour vous, l'une des raisons pour lesquelles ces mesures ne sont pas respectées, ou bien l'une des raisons qui pousse les populations à aller chercher du charbon de bois, ou bien à aller utiliser du charbon de bois, c'est parce qu'ils n'ont pas été assez sensibilisés sur l'impact, ou quoi concrètement? C'est-à-dire qu'on veut savoir aujourd'hui pourquoi les gens continuent pas à utiliser du charbon de bois, tout court. Parce qu'il n'y a pas d'alternative, parce qu'il n'y a pas de solution, parce qu'ils ne comprennent pas l'impact.
Il y a tellement d'alternatives. Okay. L'État même en a proposé 1000,
ouais, milliers. Et qu'est-ce que les gens vous disent? Qu'est-ce qu'ils disent pour justifier le fait qu'ils continuent d'utiliser le charbon de bois?
Vous savez, le charbon de bois même, c'est cher.
Mm-hmm. Et pourtant, les gens l'utilisent. Qu'est-ce qu'ils vous disent?
Certains ménages disent qu'il y a des facilités.
Ah ouais.
Facilité d'accès, c'est dans le marché, c'est accessible. Mm-hmm. C'est accessible dans le marché, malgré que c'est cher. Les femmes préfèrent utiliser ça parce que c'est moins de temps. En termes de temps. Alors que si la pression que ça génère sur l'environnement, on voit aussi les conséquences.
Mm-hmm. Alors, nous continuons le débat ce soir et on continue avec le lieutenant-colonel Issoufou Labo, directeur national de la protection de l'environnement et de l'équipement militaire au niveau du ministère de l'Environnement, et Mahamadou Siraji, jeune volontaire engagé pour la protection de l'environnement. Alors, je me retourne vers vous, lieutenant-colonel, aujourd'hui. Est-ce que, en termes de chiffres, on a un peu l'idée de combien d'hectares de forêt qui sont perdus par l'effet de l'utilisation du charbon de bois?
Bon, vous avez dit tout à l'heure que vraiment l'exploitation dans les années 85 était de 315 000 hectares par an.
Oui.
Ça, c'est toute exploitation confondue. Mm. Présentement, puisque l'exploitation du charbon de bois C'est pourquoi j'ai voulu parler tout à l'heure des dispositions que l'État a prises.
Mmh. On va en
depuis,
parler justement.
J'arrive. Depuis un certain temps, cette activité a été interdite relativement au décret 2018 mettant en application la loi 2004-040, puisque l'article 118 dit que l'exploitation, la confection du charbon de bois est interdite sur toute l'étendue du territoire, sauf dans les zones où il y a l'espèce qu'on appelle la Prosopis gilliflora, qui est une espèce assez proliférante. Donc là, les gouverneurs peuvent vraiment prendre des arrêtés pour pouvoir permettre, en cas de besoin, l'exploitation de cette espèce-là.
Mmh.
Et je vous dis que relativement à la loi 2018, il y a eu aussi un arrêté du ministre qui a interdit l'exploitation du bois pour la confection, enfin la confection du charbon de manière globale dans les 6 régions du Niger, c'est-à-dire les régions de Tillabéri, les régions de Niamey, Dosso, Maradi, Zender, n'est-ce pas, et Tawa. Il est autorisé à 2 régions cette confection de charbon, ce sont les régions d'Agadez et de Diffa, pour la simple raison que ces régions disposent d'un potentiel important de Prosopis gilliflora permettant aux communautés d'exploiter à l'état vert et de confectionner le charbon.
Mmh.
Donc, étant entendu que l'activité est interdite, nous ne disposons pas depuis en tout cas 2018, puisqu'elle ne se fait pas, on ne peut avoir que les statistiques au niveau des 2 régions, les régions de Diffa ou d'Agadez, qui sont de manière délibérée autorisées en fonction de la présence de cette espèce-là.
D'accord.
Et je vous dis que, effectivement, il y a du charbon qui peut venir, qui peut être importé des autres pays, mais là aussi, c'est sous condition de présenter les pièces d'origine, ce qu'on appelle le certificat d'authenticité ou le certificat d'origine de ce produit-là. Si ça vient du Burkina, par exemple, en venant au poste de contrôle le plus avancé du Niger, le transporteur doit nous présenter les documents qui attestent que ce produit-là provient d'un autre pays. Il faut le certificat d'origine et il faut le certificat d'authenticité. Sur la base de ça, on peut l'autoriser.
Mmh.
Et à l'heure actuelle, il y a moins de flux de ce char de charbon qui nous provient du Burkina, du Bénin ou du Nigeria. Il y en a, mais c'est quand même...
Très peu.
C'est très peu.
D'accord.
Mais donc, pour vous dire, l'activité, vu ses conséquences sur l'environnement, a été interdite, j'allais dire, sur toute l'étendue du territoire,
nonobstant
Diffa et Agadez. Et ça aussi pour la raison de la présence des peuplements importants de Prosopis gilliflora, qui est une espèce vraiment qui se régénère très rapidement.
Mmh.
Voilà ce que je vais vous dire par rapport à cela.
Mmh.
Donc, étant interdit, n'est-ce pas, on ne peut avoir que les petites statistiques du charbon qui peut venir des autres, qui peut être importé des autres pays.
Est-ce que vous savez que ces statistiques sont là?
On les a pas, puisque
malheureusement
on n'a pas les statistiques. Mais à ma connaissance, présentement, il y a un seul camion qui vient périodiquement, que nous observons sur nos postes, qui vient du Burkina pour rentrer à Niamey, qui souvent vient avec des documents attestant que l'originalité du produit est du Burkina.
Du Burkina.
Et ça aussi, il faut le dire, si les conditions sécuritaires étaient vraiment là, nous pouvons aller suivre pour voir réellement d'où sort ce produit-là. Parce que nous et le Burkina, nous partageons les mêmes peuplements pratiquement.
Mmh.
Et Dieu seul sait, les gens peuvent l'exploiter peut-être même sur notre territoire et contourner, nous dire que c'est des hypothèses, n'est-ce pas? Mais ils nous présentent quand même ce camion-là.
Attestant que ça vient d'ailleurs.
D'accord.
Et
bon, jusqu'à preuve du contraire, en tout cas, c'est le seul camion qu'on a pour la région du Niamey. Maintenant, pour les postes de Kony, souvent, il y a des véhicules qui viennent avec du charbon de Dilela ou ceux qui rentrent avec du charbon à partir de Matamey pour remonter vers Zender, Agadez, jusqu'au site aurifère. Et tout ceci-là, il se déplace avec les certificats d'authenticité d'origine de ces produits-là.
D'accord.
Voilà.
C'est-à-dire aujourd'hui, en gros, pour résumer ce que vous venez de dire, s'il y a utilisation ou bien exploitation du charbon de bois ici, au Niger, elle est réglementée.
Elle est réglementée.
Oui.
Et bon, il y a quand même des fraudes, il faut
oui.
le dire.
Oui, ça c'est sûr. Ça,
et
c'est sûr.
Nos services sont vraiment sur les qui-vive à tout moment pour rechercher ces infractions-là et les réprimer.
D'accord.
Voilà. Mais
oui, allez-y.
Mais quand même, je vous dis que l'exploitation, la confection de charbon du bois est interdite. Quand vous voyez du bois qui n'est pas accompagné avec ce document-là, c'est vraiment une fraude, c'est une infraction.
Et c'est puni par
la loi. Elle est vraiment vis-à-vis de la loi, on la réprime et on l'empêche.
D'accord. Mohamadou Sirazi, est-ce que les populations sont au courant du danger que représente l'utilisation du charbon de bois?
J'allais répondre favorablement parce que, vous savez, aujourd'hui, les changements climatiques dont nous vivons fait en partie. Donc, les gens vivent des conséquences de l'utilisation de ces charbons de bois.
De leur action, tu
vois. De leur action, ouais. De l'action.
Mm-hmm.
C'est-à-dire, c'est comme si moi-même, je fais des actions qui me permettent encore de me détruire.
Mm-hmm.
C'est ça. C'est ces derniers temps nous vivons.
Mm-hmm.
Donc, il nous faut quand même des actions.
Justement, pour des actions
alternatives.
Voilà, sur des actions, il vous arrive de faire des actions de sensibilisation, des actions de formation et tout. Vous pouvez nous en parler un peu plus. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour permettre à la population de savoir les dangers liés à l'utilisation du charbon de bois?
Nous, depuis, ça fait pratiquement plus de 12 ans que nous menons des actions de sensibilisation, de formation, d'information, mais surtout de veille environnementale. On fait aussi des actions, la production des évidences. Aujourd'hui, nous partons vers la communauté pour dire, bon, voilà, l'utilisation de ces charbons de bois, voilà les conséquences que ça a, non seulement pour vous, en termes des conséquences sur le plan sanitaire, sur le plan environnemental, et aussi sur le plan, j'allais dire, sur en termes de dépenses économiques.
Mm-hmm.
Aujourd'hui, c'est non seulement sur tous ces plans. Des fois, si vous faites un peu la comparaison, en dehors de la destruction des conséquences en lien avec l'écologie, la santé, il y a aussi l'économie. Aujourd'hui, si un ménage dispose je prends un exemple de 1000 francs, il part acheter le charbon de bois. Là, c'est des ressources qu'il aurait dû peut-être mettre ça dans l'achat de d'autres revenus qui permet à ce ménage de faire non seulement d'autonomiser, mais d'économiser. Nous pouvons dire que, économiser l'argent ou les ressources financières que vous injectez au niveau de l'achat de ce charbon de bois, comme par exemple, comme le tenant vient de dire, pour avoir un seul kilo, un kilo, il nous faut 7 tonnes de bois vert.
Ah, il nous faut 7 kilos. Ouais.
Il faut 7 kilos.
Mm-hmm.
Donc, faisons la comparaison. Pour avoir juste un kilo, donc ce kilo est à vendre à combien? C'est là qu'il faut raisonner. Mm-hmm. C'est là que nous venons dire, ce kilo même dont nous, en tant que ménage, nous achetons, ce kilo il coûte cher sur nos propres ressources financières. Est-ce que si on fait la comparaison et la part des choses, vous voyez que nous produisons des actions qui nous détruisent nous-mêmes. C'est pourquoi nous proposons des alternatives à travers aux communautés.
Mmh. On ne va pas terminer ce débat sans parler de solutions, bien évidemment. Mais pour le moment, on essaie d'avancer sur la question de la protection de l'environnement et surtout l'utilisation du charbon de bois, son impact sur l'environnement. Lieutenant-colonel Issoufou Labo, depuis tout ce temps, j'espère que vous n'êtes pas en poste hier, vu l'âge, vu l'expérience, vu le degré d'implication aujourd'hui, c'est ce que vous avez vu beaucoup de choses passer, comme des lois, comme des pratiques. Est-ce que vous avez l'impression que la population est en train de comprendre ce message, l'utilisation du charbon de bois est dangereux pour l'environnement?
Oui, vous savez que les questions environnementales, vraiment, c'est des questions de vie ou de quand l'environnement n'est pas favorable, même les communautés quittent. Ça veut dire que les communautés ont intérêt à protéger leur environnement.
Exactement.
Parce que nous avions dit en amont que la destruction de l'environnement impacte sur même la production agro-sylvopastorale. Une communauté locale qui est là, dans un environnement donné, qui ne protège pas son environnement, se trouverait un jour sans production agro-sylvopastorale. Et sans ceci-là, je ne sais pas où est-ce qu'ils vont tirer leur...
subsistance.
La subsistance. Mmh. Donc, c'est des questions... Les populations comprennent très bien qu'il faut protéger l'environnement. Parce que aujourd'hui, même pas pour la confection du charbon de bois, il y a des communautés qui sont organisées. Qui sont organisées de telle sorte qu'il y a des informateurs et il y a des communautés qui disposent des comités villageois de surveillance environnementale. N'est-ce pas? Qui, quand ils voient des infractions commises par des autochtones ou des passants, n'est-ce pas, qui viennent informer le chef du village. Et le chef du village, eux, informer l'administration qui est la plus proche pour pouvoir vraiment mettre la main sur ces infractions-là afin de les mettre l'État dans ses droits et d'éradiquer ce phénomène-là. Si les gens ont cette pensée, ont cette organisation, ça veut dire qu'ils connaissent l'importance de l'environnement tout autour d'eux. Donc, moi, je dis que vraiment, les gens comprennent très bien. Mais souvent, on assiste à des actes qui sont commis par des individus qui sont étrangers, qui viennent d'arriver souvent à la période, aux périodes des soudures. Il y a des gens qui se déplacent pour des meilleures zones. Et souvent, c'est eux qui, clandestinement, commettent ces infractions-là. N'est-ce pas? Mais ce n'est pas à l'unanimité que la communauté décide de décimer son environnement ou ses ressources, les ressources ligneuses tout autour pour pouvoir faire la confection du charbon ou bien le charbon, le bois vert pour pouvoir le vendre. Les gens sont conscients de cela. Et l'État, il prend les textes en fonction de plusieurs données, de plusieurs inventaires, de plusieurs constats, n'est-ce pas? Et on prend des mesures qui sont de nature à favoriser l'émergence de l'environnement. Et vraiment, toute la majorité des textes que l'État prend par rapport aux questions environnementales, c'est des questions très bien réfléchies, c'est des questions très bien étudiées de tous côtés avant de prendre le texte. Peut-être, ce qui ne suit pas beaucoup, c'est les sensibilisations. Parce que quand on adopte un texte, il faudrait d'abord faire la sensibilisation intense, faire même vraiment repoudre le texte en langue nationale pour que les gens puissent en disposer afin de lire pour voir telle infraction, tel acte est une infraction, tel acte est permis, tel acte n'est pas permis. Mais les gens sont très bien, en tout cas, informés et ils prennent soin de leur environnement pour la plupart des communautés.
On l'espère bien, parce que notre survie en dépend. Les débats se poursuivent dans les locaux du studio Kalangou, j'allais dire. Alors, je suis avec le lieutenant colonel Issoufou Lavo. Il est directeur national de la protection de l'environnement et de l'équipement militaire au niveau du ministère de l'Environnement. Et à ses côtés, M. Mahamadou Siraji, jeune volontaire de l'environnement. Alors, M. Mahamadou Siraji, je me tourne vers vous aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites dans le domaine de la sensibilisation? Vous avez déjà répondu à cette question, vous nous l'avez dit. Est-ce que vous pensez que ça n'est assez? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, tout est bon? On peut se reposer, on peut se dire que la population, elle est déjà consciente de tout. On peut se dire que mission accomplie pour parler de l'utilisation du charbon de bois.
La mission est loin d'être accomplie. Nous sommes dans ce qu'on appelle un process, c'est continuel. Nous continuons toujours parce que on a dans l'un de nos domaines d'intervention, on a ajouté l'engagement citoyen. Ça fait partie de nos actes d'intervention. Qui dit engagement citoyen, nous continuons surtout à faire une éducation environnementale des jeunes scolaires. Il faut que dès à bas âge, ces jeunes arrivent à inculquer des notions de base de la protection, préservation et sauvegarde de l'environnement. Et à leur tour, ils vont encore sensibiliser. Parce que vous savez, généralement, si un jeune arrive à changer mentalité, il va changer la mentalité au niveau de sa maison. Parce que si un jeune aujourd'hui, il peut te dire, « Ah, maman, papa, à l'école, on nous a dit de ne pas faire ceci. Mm-hmm. » Nous, en tant que parents, on va dire, « Ah, c'est ce jeune ou ce petit garçon ou petite fille d'un certain âge moins avancé qui nous inculque des choses que nous devrons faire. » Donc, ils vont changer de mentalité. Nous sommes focalisés sur ça pour que ces jeunes-là vont sensibiliser avec tous leurs parents. Pour eux, leurs parents vont changer de mentalité. On a aussi, parmi nos actions, continue. Il faut que nous continuons à faire des tapages. Surtout aujourd'hui, nous sommes à l'ère numérique. Continuons à faire aussi des formations sur l'utilisation à travers les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous sommes dans une floraison d'utilisation massive de ces réseaux sociaux.
Et parlant des réseaux sociaux, une petite parenthèse, je me rappelle qu'il y a de cela quelques semaines à Agadez, des lapins qui ont été tués. L'information a fuité sur les réseaux sociaux et ça a permis de retrouver les auteurs et ils sont punis.
Oui,
par...
c'est pourquoi nous orientons aussi nos actions vers les réseaux sociaux où nous continuons à encore former en ligne sur les questions digitales des jeunes sur la gestion des résonateurs et surtout sur la protection, préservation, sauvegarde de l'environnement.
D'accord. Alors,
nous avons, en plus de ça aussi, nous avons initié depuis 2015 une campagne dénommée Tabaski Écolo. C'est une campagne digitale en deux phases. Une campagne de sensibilisation sur le terrain, mais aussi en digital, où nous sensibilisons les gens à l'occasion, surtout de la fête de Tabaski. L'été avec nous, on peut estimer que même la seule ville de Niamey, c'est qu'en une journée, la seule dépense en termes de bois, sensibiliser la communauté de l'utilisation. Non seulement de l'utilisation rationnelle, mais aussi à d'autres alternatives. Parce que si ce n'est pas les régions de l'Ouest, si ma mémoire est bonne, on peut s'en passer de grèdes aussi. On peut aussi utiliser d'autres sources, telles que le minerai. C'est moins que mal.
Alors, pour que vous insistez, je vous demande alors, quelles sont aujourd'hui les alternatives? Si on ne doit pas utiliser du charbon de bois, ben, comment on va se chauffer? Comment on peut faire notre cuisson? Et comment est-ce qu'on peut, faire les besoins qu'on doit faire normalement avec du charbon de bois? Quels sont les moyens alternatifs?
Parmi les moyens, il y a plusieurs, mais parmi les moyens alternatifs dont nous faisons la promotion, surtout les foyers améliorés. Il y a des foyers améliorés qui utilisent la balle de riz. La balle de riz, c'est un résidu issu des décortillages du riz. La balle est gratuite.
Lieutenant Colonel Issoufou Labo, je me retourne vers vous. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des alternatives par rapport à l'utilisation du charbon du bois dans nos foyers?
Bien sûr. Tout à l'heure, le collègue de l'association a commencé à parler d'un certain nombre d'alternatives. Étant entendu qu'on a dit, et c'est comme ça que la confection du charbon du bois fait consommer énormément de bois. Pour 1 kg de charbon, je le rappelle, il faut 7 kg de bois. Alors, des alternatives sont vraiment sont les bienvenues.
Mm-hmm. Elles sont disponibles.
Elles sont disponibles. Entre autres, nous avions le gaz. Le gaz butane. Aujourd'hui, vous avez, quand vous payez une bouteille de 2000 francs, vous pouvez faire une semaine selon la taille de votre famille. Mais je suis sûr que même le bois, quand vous payez le bois de 2000 francs, il ne peut pas vous faire une semaine. À plus forte raison, le charbon, qui est moins en termes de quantité, n'est-ce pas, qui représente un septième de cette quantité-là. Vous comprenez? Donc, il y a le gaz butane. Nous avions aussi le charbon minéral qui est produit dans des compagnies telles que la Sonichar. Peut-être Sakadam peut aussi voir produire. Et ça aussi, c'est une filière qui pourrait nous permettre d'avoir une autre source d'énergie. Nous avions, comme il a dit, les différents foyers, n'est-ce pas, qui marche sur la base des résidus agricoles, mais nous avions aussi les briquettes. Les briquettes qui sont confectionnées sur la base des résidus agricoles, notamment les résidus des coques d'arachide, les résidus des glumes de mil, n'est-ce pas? Nous avions dans d'autres zones, même les bouses, les zones désertiques, les bouses sont utilisées comme source d'énergie. Elles sont plus, elles maintiennent la chaleur plus que le charbon. Donc ça, c'est dans les zones vraiment, les zones nord, où on a l'abondance des animaux qui défèquent un peu partout. Voilà donc, en quelque sorte, vraiment des pistes pour pouvoir nous permettre d'épargner les maigres ressources forestières que nous avions. Et la technologie évolue. Aujourd'hui, nous assistons à beaucoup d'innovations qui permettent vraiment d'avoir de l'énergie. Et il faudrait vraiment les vulgariser et les adopter pour que nous puissions vraiment économiser. Parce que nous sommes quand même un pays sahélien qui a des problèmes vraiment de ressources forestières. Et il faudrait que nous arrivions à protéger le peu que nous avions. Nous sommes en train de... La démographie est galopante. Mmh. Et si... Aujourd'hui, on prend par exemple, je prends un exemple, 1000 tonnes dans une ville donnée. Dans 2 ans, 3 ans, c'est peut-être le double ou le triple. Or, les ressources, la multiplication des ressources ne suit pas. Ça veut dire qu'on va arriver à un moment où nous n'allons pas laisser léguer un héritage aux générations futures. Or, nous avions l'obligation et le droit d'utiliser nos ressources de manière pérenne et judicieuse pour pouvoir les faire profiter aussi aux générations à venir.
J'espère que le message est passé, amis auditeurs et auditrices, vous qui nous écoutez grâce à nos 45 radios partenaires. Je vous rappelle que ce soir, nous sommes en train de parler de l'utilisation du charbon de bois. Quel impact sur l'environnement? C'est la grosse question qu'on se pose dans le forum du studio Kalangou de ce soir. Je suis avec le lieutenant colonel Issoufou Labo, directeur national de la protection de l'environnement et de l'équipement militaire au niveau du ministère de l'Environnement. Et mon cher Mahamadou Siraji, jeune volontaire de l'environnement, quelqu'un qui, en tout cas, sensibilise, éduque sur les questions environnementales. Alors, nous sommes presque à la fin de cette émission, mais on ne va pas terminer cette émission, en tout cas, sans savoir aujourd'hui, si on continue comme ça, où est-ce qu'on va? C'est-à-dire, en termes de perspective, si l'utilisation du charbon de bois ne diminue pas, qu'est-ce qu'on craint? Qu'est-ce qu'on risque?
Si nous utilisons pas d'une manière rationnelle les ressources, c'est-à-dire le charbon de bois, nous n'allons rien léguer à la génération future. Mm. Nous pouvons dire déjà que notre génération a déjà consommé sa part. Donc, tout ce que nous utilisons, on peut dire que c'est pour les générations futures. Donc, il faut que nous, cette génération, à minimiser, utiliser des ressources déjà que ces ressources, ce n'est pas pour sa ressource. Elle a déjà...
Ce n'est pas sa part.
Ce n'est pas sa part. Mm-hmm. Elle a déjà consommé sa part. Mm-hmm. Donc, elle déjà, comme on le dit, projette dans l'avenir pour grignoter dans l'avenir. Alors qu'il nous faut changer de comportement et surtout de mentalité pour que ces ressources-là, nous les utilisons d'une manière raisonnable.
Mmh. Alors, lieutenant colonel, à l'allure des choses, peut-on redouter une accélération de la destruction du couvert végétal pour cause de l'utilisation du charbon de bois? Est-ce qu'on peut redouter cela?
Bien sûr. Heureusement que l'État a pris des mesures, des garde-fous, en adoptant donc...
Et des mesures qui ont marché, si je vous écoute.
Qui ont marché, parce que je ne dis pas que ça ne se fait pas, mais ça se fait vraiment... de manière très, 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 très vraiment aléatoire. Les gens, on prend quelques individus qui vraiment ça donne à cette activité, mais je dis que comme l'État a pris des dispositions par rapport au charbon de bois, nous pensons que si on maintient le cap et on sensibilise les gens, nous pensons que vraiment ça peut être une bonne chose pour la sécurité de notre environnement. Je vais un peu revenir sur la question que vous venez de poser représentant de l'association des jeunes volontaires, si on ne fait rien, à quoi on va en tout cas arriver. Mmh. Je pense que nous avions le droit et l'obligation, et le bon sens le veut, de protéger notre environnement. Nous avions dit tout à l'heure que l'environnement, c'est un tout. Il faudrait protéger notre environnement. En le protégeant, nous protégeons notre capital productif. Et quand nous protégeons notre capital productif, ça veut dire que nous assurons, nous sommes assurés au moins qu'il y aura la production sous toutes ses formes. La production agricole, la production pastorale, la production halieutique, la production avicole, n'est-ce pas ? Apicole du moins, n'est-ce pas ? Et nous sommes rassurés en protégeant notre environnement que cela est possible. Mmh. Mais quand nous allons le détruire, oui, rassurez-vous que nous allons attiser vraiment l'insuffisance alimentaire par la simple raison que le capital productif serait exposé et la production ne va pas suivre pendant que la démographie s'accroît. C'est pourquoi nous avions en tout cas intérêt, vous et nous, à continuer la sensibilisation, n'est-ce pas, des communautés, des populations, pour que nous puissions vraiment protéger notre environnement pour notre bien à tous.
Nous sommes presque à la fin de cette émission. Alors, chers invités, je suis très heureux de vous avoir eu dans cette émission. Avez-vous envie d'ajouter quelque chose avant qu'on ne dise au revoir à nos auditeurs et auditrices ? Allez, merci. Et à vous, lieutenant colonel, vous avez quelque chose à ajouter ?
Vraiment, je vais une fois de plus remercier le studio Kalangou pour cette initiative. C'est quand même une occasion qui nous est donnée pour pouvoir sensibiliser les populations sur un certain nombre, une préoccupation qui est là, n'est-ce pas, pour que les gens comprennent l'enjeu sur l'utilisation du charbon de bois et qu'ils sachent qu'il y a des dispositions qui ont été prises. Mmh. Et vraiment, nous allons profiter pour demander des efforts aux populations pour pouvoir vraiment effectuer des actions de reboisement, des actions d'abord de production de plants et des actions de reboisement qui vont renforcer le capital disponible déjà. Partout où nous nous trouvons, tant qu'il y a la possibilité, que ce soit dans nos services, que ce soit dans nos concessions, que ce soit dans nos champs, que ce soit dans nos jardins, si on peut le faire, on peut planter un arbre. Parce que un adage dit que celui qui a planté un arbre n'a pas vécu inutilement. Mmh. Plantons des arbres pour ne pas vaincre inutilement. C'est utile pour nous. Et nous avions vraiment, en les plantant, nous sommes rassurés que nous léguons vraiment, nous léguons à aux générations futures un environnement rassuré. Voilà l'appel que je vais lancer, que les gens vraiment respectent toutes les dispositions par rapport à la confection du charbon et que les gens vraiment prennent dans leur pratique quotidienne l'utilisation des mesures alternatives telles qu'on les a en tout cas relatées tout à l'heure. Et cela nous permettrait d'assurer la pérennité de notre environnement. Merci.
Merci à vous de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin. Merci à vous, lieutenant colonel Issoufou Labou. Vous êtes directeur national de la protection de l'environnement de l'équipement militaire. Merci, Mahamadou Sirazi, jeune volontaire de l'environnement. Amis auditeurs et auditrices, nous sommes à la fin du forum de ce soir et c'est sur ces mots que nous allons clore ce forum. Il ne faut pas surtout attendre le 3 août pour planter des arbres. Plantons-le dès que nous pouvons. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à nos fidèles auditeurs et auditrices. La technique a été assurée par Madame Amina Hassan. Vous pouvez retrouver ce forum sur les réseaux sociaux du studio Kalangou et sur le site internet. D'ici là, plantez des arbres autour de vous et protégeons-nous. Bonne soirée et à demain pour les programmes du studio Kalangou. Bye bye.